aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et maintenant que Céline Dupuis-Lagarde est en train de nous quitter, nous allons commencer la seconde partie de cette réunion. Enfin, cette réunion, c'est pas une réunion. Voilà, Céline m'a tellement emmené dans sa campagne municipale que j'ai l'impression d'être en train d'animer une réunion de quartier. Pas du tout. Ça s'appelle Restons Courtois. Vous êtes sur Radio Courtoisie. Vous pouvez nous téléphoner. Vous pouvez nous écrire à courtoisie@rc.fr. Et bien sûr, nous ferons part de votre de vos appels. Il y a évidemment dans l'actualité politique autre chose que les municipales et qui est l'affaire Quentin. Voilà, Quentin, jeune militant, jeune nationaliste, jeune catholique, catholique fraîchement converti, qui avait entraîné d'ailleurs dans sa conversion sa famille, catholique dévoué, qui faisait des maraudes pour aller à la rencontre des pauvres et des exclus, des pauvres et des exclus à Lyon, des pauvres et des exclus, y compris par le système de Monsieur Doucet, le maire, qui d'ailleurs n'a pas arrêté sa campagne, lui, alors que ses concurrents avaient considéré que le fait que quelqu'un se fasse assassiner sur le sol lyonnais méritait peut-être qu'on tempère les municipales. Ben voilà, Doucet, qui est écologiste, est ému de chrétienne compassion pour la manière dont les arbres poussent et meurent, mais pas tellement pour la manière dont les Lyonnais sont en train de répandre leur sang sur des trottoirs mal défendus. Et cette affaire Quentin est absolument stupéfiante parce qu'on est en train de se rendre compte, ce qu'on savait déjà, surtout quand, sur Radio Courtoisie, mais le peuple français est en train de se rendre compte qu'il y a un deux poids, deux mesures stupéfiant. On peut tuer aujourd'hui à coups de pied, à plusieurs, un militant nationaliste catholique et être néanmoins célébré par un parti politique, LFI, qui explique que bien sûr, ils n'ont rien à voir avec la Jeune Garde, mais qu'à côté de ça, Raphaël Arnaud, qui a créé la Jeune Garde, est un type très bien. On peut avoir des journaliste du service public qui explique qu'il faut quand même bien se rendre compte que le vrai danger, c'est l'ultra-droite. Rappelons que c'est un militant nationaliste qui est en ce moment en train d'être pleuré par sa famille. Et on a vraiment le sentiment aussi d'une justice légèrement devenue folle. Je le rappelais tout à l'heure dans la première partie de cette émission, un citoyen lyonnais a apostrophé avec des menaces de mort des candidats aux élections municipales lyonnaises et il a été mis en garde à vue, voilà, pour des insultes. L'ensemble des antifas qui ont agressé Quentin, dont plusieurs ont été reconnus par des témoins, des vidéos, les montres, surtout il y a des témoins qui sont prêts à déposer, eh bien au bout de plusieurs jours, la justice n'a procédé à aucune interpellation. C'est-à-dire que la justice, qui est capable d'empastiller avec une célérité incroyable des gens de droite, a considéré que des meurtriers de gauche devaient être traités avec des scrupules qu'on n'a pas eu pour la plupart des gens et qui, au contraire, au bout de plusieurs jours, où on leur a laissé gentiment la possibilité de se débarrasser de leurs vêtements, de vider leur téléphone, d'annuler leurs réseaux sociaux, de s'inventer des alibis prodigieux, comme le fait de s'être carapaté en Amérique du Sud, eh bien, cette justice décidé en fait, de passer à côté. Pour parler de cette affaire Quentin, j'ai avec moi deux personnes qui sont vraiment des spécialistes. Maître Sassy, bonjour maître.
Bonsoir Richard, bonsoir Olivier, bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, et Olivier, frère Jacques, justement, donc, qui est à côté de moi. Et vous êtes le rédacteur en chef de Liberté Politique.
Oui. Et Liberté Politique a fait paraître une brochure qui s'appelle Extrême Gauche, Réalité, Violence et Réseau, que j'ai eu la chance de présenter déjà ici et que malheureusement je viens représenter dans ces circonstances un peu tragiques. Mais nous sommes associés avec l'Observatoire des violences politiques, qui est un média consacré aux violences d'extrême gauche. Et avec ce média, nous avons fait ce petit opuscule qui en fait explique les mécanismes de la violence d'extrême gauche, dont la violence antifasciste, qui est la principale force active dans les mouvements d'extrême gauche aujourd'hui.
Alors, je citais hier dans Restons Courtois un certain nombre de choses qui permettent de mieux comprendre ce qu'est l'extrême gauche et notamment de mieux comprendre que la Jeune Garde n'est pas un mouvement de défense comme le prétend Raphaël Arnaud, mais au contraire un mouvement d'attaque, que la Jeune Garde n'est pas un mouvement démocratique mais au contraire un mouvement qui empêche la démocratie, que la Jeune Garde est en fait un ramassis de gauchistes qui sont absolument persuadés que tous les fascistes sont ceux qui ne pensent pas comme eux et que puisqu'ils sont fascistes, et le fascisme commence avec, au minimum avec le PS, voire dans leur propre rang, eh bien, les fascistes sont bons à pendre, sont bons à insulter, sont bons à martyriser, sont bons à tuer, en fait, et on les sent totalement impénitents. Et pourquoi avoir avec moi des hommes de loi ou qui étudient la loi? C'est que, voilà, le 12 novembre 2025, à Lille, des antifas ont fomenté des guet-apens à l'encontre de plusieurs militants patriotes qui participaient à une soirée des droites. L'un d'eux a été lynché et a reçu un coup de pied en pleine tête, ce qui lui a fait perdre connaissance. Le militant a eu le crâne fêlé, les lèvres ouvertes, le nez dévié, les dents abîmées. Eh bien, les antifas n'ont pas été condamnés. À Saint-Étienne, le 2 octobre 2025, 4 antifas sont rentrés dans le domicile d'un militant d'Action française pour le lyncher. Roué de coups, il s'en est sorti avec 2 points de suture et une fracture de poignet. L'enquête de police est toujours en cours. Et comme ça, on peut citer des dizaines de personnes qui auraient pu être des Quentins. Mathieu Sassy, comment avez-vous rencontré dans l'exercice de votre métier d'avocat la violence d'extrême gauche?
Eh bien, en effet, elle se rencontre, Richard, comme vous l'avez bien dit, par en tout cas ce qui semble être un deux poids deux mesures. Je pense qu'en effet, c'est une réalité. La seule chose sur, on va dire, le départ douloureux hein, de Quentin pour le milieu patriote, c'est que je suis plus réservé sur la condamnation actuellement de l'institution judiciaire et policière, puisque le service auquel l'enquête a été confiée est un service qui est très professionnel, qui a l'habitude de dossiers qui sont des dossiers criminels ou en tout cas avec des enjeux qui sont des enjeux importants. Et je ne leur jetterai pas la pierre tout de suite, ou je ne jetterai pas la pierre tout de suite au directeur d'enquête, au procureur de la République à Lyon. S'ils n'ont pas tout de suite interpellé, on verra en effet si c'est effectivement pour permettre à ces jeunes gens de pouvoir s'en sortir, ou si c'est au contraire pour pouvoir assurer la qualité de la procédure au moment où ils seront interpellés. Et je le dis, en fait, dans des dossiers où il y a un tel enjeu par rapport à la gravité des actes qui ont été commis, mais par rapport aussi au climat politique qui est le nôtre, une erreur de procédure ou une négligence dans les premiers actes d'enquête avant les interpellations des mises en cause, en fait, pourrait précariser la qualité du dossier par la suite. Donc, je dirais, et là, c'est peut-être... ce que vous entendez plus habituellement, mais que le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique et que le service enquêteur qui a été saisi est actuellement à l'œuvre et nous verrons en effet prochainement quels seront ses résultats.
Voilà, alors vous avez raison de ne méjugeons pas immédiatement et ne préjugeons pas immédiatement de la lenteur de la justice. Je voudrais quand même revenir avec vous sur d'autres affaires où justement la justice a annulé pour vice de procédure des instructions, des enquêtes qui avaient été menées à l'encontre d'Antifa, identifiés, qui avaient commis des actions violentes. Édouard Bina de la cocarde étudiante nous a rappelé que, par exemple, à un moment donné, des antifas avaient attaqué des militants, des drones avaient filmé la scène, des drones de la police, si je ne m'abuse, mais comme ces drones avaient dépassé la zone où ils étaient autorisés de filmer, donc la justice a déclaré irrecevable la preuve en fait, des méfaits qui avaient été commis par les antifas reconnus et déférés au tribunal. On a quand même l'impression que de temps en temps, il y a un deux poids, deux mesures.
Alors mais par exemple très concrètement dans le dossier que vous évoquez, qui est en fait un exemple qui est parlant, si vous voulez, à partir du moment où en fait le dossier reposait uniquement sur l'exploitation des drones et que malheureusement les drones en fait avaient été utilisés en dehors du champ qui avait été autorisé en fait par les magistrats, en fait si vous voulez le vice de procédure il était acquis, et dans la mesure où où la procédure reposait essentiellement si vous voulez sur cet élément de preuve, en fait ça compromet tout le dossier, d'accord? Donc oui, Richard, vous inquiétez pas, je viens aux deux poids, deux mesures pour les illustrer. Et ce que je veux simplement dire par là, c'est que sur le meurtre de Quentin, en fait, les enquêteurs veulent typiquement éviter ce qui peut arriver régulièrement, si vous voulez, dans des dossiers qu'on traite un peu trop rapidement, c'est qu'en fait, les principaux mis en cause s'en sortent sur la base de tel ou tel moyen de procédure qui aurait été employé et qui finalement ne tiendrait pas devant les juridictions du fond. Donc, en revanche, si vous voulez, sur, en effet, le deux poids, deux mesures. Alors, j'ai pris un certain nombre de villes, d'accord? À Albi, par exemple. Vous avez à Albi un guet-apens, hein, un guet-apens qui avait été tendu par des militants de la Jeune Garde, venus de Montpellier et venus de Toulouse, contre deux responsables locaux d'associations de droite. Et dans le cadre de ce guet-apens, les jeunes ont reçu des coups de bouteille, des coups avec des poings américains. Ils se sont réfugiés ensanglantés dans un hôtel à demi inconscient. Il se trouve qu'au terme de l'enquête, nous n'avons retrouvé que trois personnes et que ces trois personnes ont été relaxées puisque en fait, elles ont été peu ou mal identifiées dans le cadre de l'enquête. Au contraire, alors que un autre groupe, hein, ce soir-là, a voulu rechercher ceux qui avaient attaqué leurs copains, hein, cet autre groupe, le même service d'enquête va les rechercher. Et ce n'est pas trois personnes qu'ils vont arrêter, mais c'est 13 personnes qu'ils vont arrêter. D'accord? Au terme d'une procédure qui utilisera des renseignements anonymes, au terme d'une procédure qui utilisera des identifications effectuées par les milieux antifa, au terme d'une procédure qui va exploiter l'intégralité des données de connexion de leur téléphone mobile, etc., etc. Autrement dit, vous voyez là, dans ce simple dossier albigeois, nous avons quasiment dans la même soirée deux groupes différents et deux enquêtes sur chacun des deux groupes. D'un côté, nous avons quelques personnes arrêtées, trois ou quatre tout au plus, quelques moyens de procédure qui seront employés pour les retrouver, mais insuffisamment pour les faire condamner. Et de l'autre, le groupe adverse, hein, du camp national, lui fera l'objet d'une procédure fleuve avec l'intégralité des moyens d'enquête à disposition qui seront employés et qui seront jugés prochainement devant le tribunal judiciaire de Albi. D'accord? Donc ça, c'est pour l'exemple albigeois.
Mais donc, et là, je me permets de résumer, c'est-à-dire, les mêmes enquêteurs ont, dans un cas, évidemment, fait une enquête à minima, pour le dire, je le dis, ce n'est pas vous qui le dites, et dans l'autre cas, ont décidé de faire l'enquête la plus exhaustive, avec la débauche de moyens la plus nécessaire pour identifier les auteurs d'une agression,
Oui,
qui
c'est
d'ailleurs
exactement ça.
n'a même pas eu les mêmes, comment dire, les mêmes conséquences. C'est-à-dire que les Antifas ont effectivement lynché. Des identitaires à Albi au point qu'ils ont eu des traumatismes crâniens, donc voilà, autrement dit, c'était grave. Et en revanche, les identitaires qui voulaient casser la figure aux Antifas ne sont pas allés jusqu'à des extrémités aussi pénibles.
Ah non, mais c'est même pas qu'ils y sont pas allés, c'est qu'ils ne l'ont ils n'ont rien fait.
Voilà.
C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait ce soir-là, d'accord? Ils n'ont rien fait. Mais en revanche, la justice a utilisé ce qu'on appelle l'infraction de groupement, qui est une infraction obstacle, c'est-à-dire que même s'il ne se passe rien, le simple fait qu'ils se retrouvent en groupe, ils constituent une menace qui doit être réprimée. La menace qui doit être réprimée, c'est quand même un an d'emprisonnement encouru, d'accord? Donc c'est-à-dire que, et ça je le dis, si vous voulez, parce que dans toutes les villes de France, pour le coup, en fait, si vous voulez, il y a un grand jeu qui est effectué par les milices rouges, sous couvert de s'appeler la Jeune Garde, Génération antifasciste ou que sais-je, en fait, ils se regroupent la nuit à 10, 15, 20. Le dernier rassemblement qu'il y a eu à Paris, c'était en janvier 2026, puisqu'ils mettent tout ça sur leurs réseaux sociaux, hein. Ils étaient 100, 100 dans le 15e arrondissement de Paris, d'accord? Une centaine dans le 15e arrondissement de Paris, et lorsque je dis 100, je pèse mes mots, ok? Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils appellent ça des mobs pour mobilisation, et ils traquent. D'accord? C'est une traque nocturne. Et dans cette traque nocturne, ils alpaguent toute personne qui est affiliée ou affichée comme appartenant aux camps patriotes au sens large. D'accord? Pour le passer à tabac. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, leurs réseaux sociaux ne sont pas censurés. D'accord? Sur leurs réseaux sociaux, il y a des membres des services de renseignement. Et il y a un laisser-faire volontaire, connu par le ministère de l'Intérieur, qui en fait utilise, si vous voulez, ces milices, puisque ce sont des milices, hein, pour en fait menacer physiquement le camp national qui en réalité a le vent en poupe dans ce pays, puisque la France est, et c'est son grand malheur, un pays historiquement de droite qui a toutes les peines du monde à faire émerger un candidat qui puisse la représenter et la gouverner. D'accord? Mais le gouvernement connaît ces méthodes violentes. Ils ont des membres des services qui ont infiltré ces groupes, mais ils laissent faire. Voilà. Et il y a un laisser-faire volontaire qui, en effet, a conduit aujourd'hui au décès de Quentin à Lyon.
Je voudrais revenir sur le délit à partir duquel on veut condamner les 13 militants identitaires albigeois. Donc, c'est le délit de regroupement, c'est ça?
Oui, ça s'appelle le groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations.
Alors, il est nécessaire de dire que chaque fois que les antifas se réunissent en vue de commettre, etc., et en l'occurrence en vue de casser la figure des militants nationalistes, jamais, jamais, la police, la justice ne les a accusés et ne les a embastillés ou en tout cas inquiétés judiciairement au titre de ce délit-là.
Exactement. Exactement. Je vais même citer un exemple qu'ils ont publié. Vous voyez, en fait, on peut y aller. Je donne pas le nom de leur canal, si vous voulez, parce que je veux pas leur donner de la publicité. Mais à Lyon, par exemple, ce qu'ils font également, c'est qu'ils contactent des militants patriotes via des filles hein, de leur réseau sur des applications de rencontres. Ils échangent des messages avec eux. Hein. Ils leur donnent des rendez-vous galants. Galant, en fait, se termine, si vous voulez, par un guet-apens avec tabassage en règle. Voilà. Et tout ça filmé. Donc, voici, si vous voulez…
Filmé et publié pour que la personne ait honte.
Filmé, également, exactement, filmé et publié. Et même plus loin que ça. Chaque fois que vous avez une affaire qui mêle des militants rouges, qu'ils soient victimes ou auteurs, hein, là, je ne peux pas citer qui le fait, mais je ne peux pas citer qui le fait, en tout cas pas publiquement. Mais l'intégralité des dossiers, des procédures, d'accord, est transmis à la presse militante de gauche, que je ne vais pas citer non plus. Pour quelle raison? De telle manière, si vous voulez, à organiser des campagnes de presse en faisant sortir l'intégralité des prénoms et des noms, hein, des jeunes. Qu'ils soient identitaires ou nationalistes, qui sont mêlés à l'affaire, même s'ils sont encore innocents, hein, pour organiser une campagne de presse médiatique à leur encontre, en vue de leur faire perdre leur emploi et en fait d'afficher, si vous voulez, leur nom dans les résultats Internet au cas où ils voudraient à nouveau rechercher un emploi, mais également, si vous voulez, pour les afficher auprès de ces milices qui ensuite, en fait, vont les menacer physiquement dans la rue. Voilà. Et dont le jeu, en fait, sera, là, je pense à un jeune identitaire qui, lorsqu'il se baladait avec sa copine rue Princesse pour aller dîner au restaurant, hein, se fait retrouver par 4-5 personnes qui l'entourent en vue, si vous voulez, de l'inviter à une confrontation physique. Voilà. C'est quand même le climat aujourd'hui qui existe dans notre pays. Et en effet, en fait, à la faveur du décès tragique et douloureux de Quentin, en fait, cette situation est révélée pour le grand public, mais elle est systémique. Elle est systémique et en fait, c'est bien rodé. Il y a des médias qui affichent les militants du camp patriote, qui font tomber des candidats aux élections municipales ou législatives par, si vous voulez, les craintes de grands partis nationaux qui, en fait, dans leur quête assoiffée du pouvoir, veulent absolument éviter tout scandale. Donc ça, c'est au niveau médiatique. Et au niveau, ensuite, physique, ils exercent des pressions, jusqu'à des pressions violentes. Voilà. Et je pense que, Richard, vous le savez, certains journalistes de Radio Courtoisie, lorsqu'ils vont couvrir certains meetings de candidats municipaux RN, en région parisienne ou en province, ont pu constater des happenings hein, organisés par l'ultra-gauche qui auraient dégénéré en violence si la police n'était pas présente. Donc ce que je veux dire, et j'en termine par là, c'est que cette violence aujourd'hui, par le biais de milices qui sont contrôlées par LFI, est acceptée par le gouvernement Macron, d'accord, est tolérée par le gouvernement Macron comme une arme de rue contre le camp patriote.
Merci beaucoup, Mathieu Sassy. Restez avec nous, parce que mon merci ne signifie juste merci d'avoir posé le débat et de l'avoir déjà éclairé. Olivier Frère-Jacques, vous qui êtes un spécialiste de la violence d'extrême gauche, comment est-ce que vous pouvez compléter les affaires dont Maître Sassy nous a parlé?
Sur les violences d'extrême gauche, je rebondirai par deux citations qui ne sont pas celles d'un militant politique ou d'un analyste. Ce sont des citations d'auteurs de gauche. Le premier, et ce sont des citations que je tire de notre livret, le premier c'est Sébastien Bourdon, qui est auteur du livre Une vie de lutte plutôt qu'une minute de silence, aux éditions du Seuil 2023, qui écrit, c'est un témoignage sur l'antifascisme, lui-même est d'extrême gauche, donc il sait de quoi il parle. Il cite un jeune antifasciste qu'il interviewe qui dit: on y va quand on a l'avantage. Si on y va, c'est pour gagner, pas pour envoyer quelqu'un de chez nous à l'hôpital. Citation suivante d'Olivier Minot dans Fragments d'une lutte antifasciste. Alors lui explique, donne le témoignage d'un antifa lyonnais, donc ça a une résonance toute particulière aujourd'hui. Je n'ai aucun honneur dans la bagarre, alors franchement, défoncer un faf à 10 contre 1, je le fais, pas de souci. Ça, c'est Olivier Minot, Fragment d'une lutte antifasciste, c'est publié en 2024. Ça, on l'a écrit, on l'a répété plusieurs fois. Les autorités n'en ont rien à faire, parce que comme disait Maître
Sassy.
Sassy à l'instant, tout ça est connu. Nous, on a accès à des canaux Telegram de l'extrême gauche, on sait comment ils s'organisent quand il y a les manifestations nationalistes, on voit comment ils fonctionnent. Si nous, on y arrive avec nos petits moyens, on peut imaginer que les services français ont largement la possibilité de le faire. En réalité, il y a une volonté politique qui est double, parce que Maître Sassy disait il y a une volonté de nuire au camp national, ce qui est vrai, en tout cas très probable, mais il y a aussi une volonté d'éliminer l'opposition, quelle qu'elle soit. Et je prendrai un autre exemple qui ne va pas forcément dans le camp de la droite, mais qu'il faut quand même évoquer, c'est l'exemple du camp des mobilisations sociales contre la réforme du travail et la réforme des retraites. Quand il y a eu la mobilisation contre la réforme des retraites, contre la réforme du travail en 2016, les antifascistes ont complètement flingué le mouvement, avec les Black Blocs qui se mettaient au premier rang. C'est les antifascistes autonomes, ce n'est pas les mêmes que ceux de Raphaël Arnaud, c'est une autre mouvance antifasciste, et qui eux vont casser les vitrines, se battre avec les flics, etc. C'est une autre stratégie, mais c'est une stratégie qui a pourri le mouvement, qui a discrédité les manifestations, qui étaient pourtant suivies dans l'opinion, quoi qu'on en pense d'ailleurs, peu importe. Mais il y a un laisser-faire à ce moment-là, en se disant on va décrédibiliser le mouvement grâce à l'intégration d'éléments dangereux, en l'occurrence antifascistes, qui ont recours aux moyens, aux méthodes du Black Bloc. Et ça s'est aussi vu pendant les Gilets jaunes. C'est on pourrit un mouvement par ça, un mouvement social, un mouvement populaire comme les Gilets jaunes et le mouvement national. Donc c'est une arme, l'extrême gauche, c'est une arme au service d'un pouvoir que l'extrême gauche dit d'ailleurs combattre.
C'est une arme au service du capital mondialiste. C'est absolument fascinant de voir à quel point ce sont les idiots utiles du régime. Marie d'Armagnac, vous êtes ici ce soir, non pas parce que vous êtes une spécialiste de l'antifa, mais parce que vous connaissez bien l'Italie. L'Italie a une vieille tradition de lutte entre fascistes et antifascistes, avec d'ailleurs les antifascistes d'après-guerre qui sont évidemment les plus courageux, qui ont décidé de faire systématiquement la peau, et je parle au sens non pas imagé, mais au sens propre de cette figure, c'est-à-dire il y a des militants de droite italiens qui sont morts, et il y a régulièrement en Italie des cérémonies où on salue la mémoire de ceux qui sont tombés, et bien sûr les antifas du 21e siècle, encore plus courageux que tous ceux qui les ont précédés, attaquent régulièrement ces manifestations en expliquant à quel point elles sont honteuses. Et il y a une internationale en fait antifa, puisque Raphaël Arnaud a été identifié en Italie lors de ces prétendues manifestations antifascistes.
Il y a un mois, effectivement. Alors je veux bien vous refaire un petit peu l'historique. Dans les années 70, effectivement, il y avait beaucoup il y avait vraiment des combats de rue. Enfin, c'était quand même très... C'était très chaud, c'était le moment des années de plomb. Il y a eu les brigades rouges, etc. Et en... Le 7 janvier 1978, il y a trois jeunes militants du Front de la Jeunesse, du Fronte della Gioventù, qui est le mouvement jeune du MSI de l'époque, on est dans les années 70, qui sont tués par des militants d'extrême gauche. Et donc depuis, et puis c'est des épisodes comme ça, il y en a eu d'autres, il y a eu Sergio Ramelli en 75, qui était un jeune militant effectivement du MSI, donc la même chose, du Fronte della Gioventù, qui est assassiné, qui passe un mois et demi d'agonie à l'hôpital et qui et finalement meurt. Et tous les ans, la droite italienne, dans sa frange assez, comment dirais-je...
Radicale.
Oui, radicale, rend hommage. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais laissé tomber. Tous les ans, depuis plus de 50 ans, il y a des hommages chaque année sur le lieu de ces morts, comme il pourra y en avoir, je pense, pour Quentin à Lyon. Et donc, en janvier dernier, il y a quatre militants de la Gioventù Nazionale, et donc le mouvement jeune de Fratelli d'Italia, donc le parti de Giorgia Meloni, qui faisaient des collages, comme ils sont très collages, les Romains, il y a toujours des 10 cm d'épaisseur d'affiche sur tous les panneaux d'affichage. Et donc ils faisaient des collages pour informer de la commémoration qui allait avoir lieu le lendemain. Et ils se sont fait attaquer par une vingtaine d'encapuchés, de militants d'extrême gauche. Alors il y a quand même des signes de préméditation, c'est-à-dire qu'ils avaient des matraques, des bâtons, des moyens de se parler, donc des talkies. Ils étaient, donc ils se sont fait agresser dans le parking d'un supermarché, ces quatre jeunes. Ils ont tous terminé à l'hôpital. Et ça, c'est un article de Il Journal qui le rapporte ces jours-ci. Enfin, on en a parlé il y a un mois, mais qui en reparle. Ils ont dit, en déposant plainte, que c'était des antifas qui ne parlaient pas italien. Ensuite, on a le lendemain, donc, cette cérémonie, et puis il y a toujours, bien sûr, un chœur antifasciste qui se tient à distance raisonnable de cet hommage. Et chez les antifas, il y avait cette année Raphaël Arnaud. Et c'est pas une fake news, puisque vous pouvez aller consulter son profil Facebook, et il explique dans une vidéo qu'il est là pour combattre le fascisme et, dit-il, la violence inouïe du fascisme de retour au pouvoir. Il parlait de Giorgia Meloni. Donc, si vous voulez, en fait, ça devient assez dangereux parce qu'il y a eu ça. Il y a eu, en 2024, il s'est rendu, on lui a... Raphaël Arnaud, toujours. Il a des liens très clairement avec les antifas italiens, qui sont assez fournis depuis les années 70, en fait. Hein, ils sont pas... Voilà. Et il s'est rendu dans un arrondissement de la ville de Rome, dont l'élu est très à gauche, qui lui a remis une plaque commémorative avec... le logo de la mairie de Rome, quand même, ce qui est un peu étonnant, et en disant à notre compagnon de la France insoumise, unis dans le combat. Donc il y a vraiment une internationale antifasciste. On voit que ces dernières semaines en Italie, il y a eu des combats à Turin. Pour l'évacuation d'un centre social. Le centre social, c'est une réalité italienne, politique, c'est-à-dire que ce sont des immeubles entiers qui sont squattés, mais pendant des décennies. Et le centre social vu de gauche, c'est donc il y a d'extrême gauche, c'est on y trouve des sans-papiers, des gens qui ne mangent, qui ne boivent pas que de l'eau et qui ne fument pas que des cigarettes de tabac. C'est une espèce de culture un peu underground de l'extrême gauche italienne. C'est un truc presque institutionnel. Et il y a eu l'évacuation d'un centre à Turin par le gouvernement, et qui a engendré beaucoup de violence. Il y a un policier qui a été agressé à coups de marteau. Il y a depuis plusieurs semaines des attaques sur les rails. Surtout depuis le début des Jeux Olympiques, en fait, on sabote le réseau ferroviaire italien. C'est un peu tous les jours. Il y a tout ça. Et il y a une interview d'ailleurs aujourd'hui de Vincenzo Sofo dans Il Journal qui dit on craint avec le il y a une espèce de montée en pression aussi bien en France dans la violence et aussi bien en France qu'en Italie, constate-t-il, en sachant qu'il y aura dans ces deux pays des élections en 2027. Donc, les Italiens font très attention à ce qui se passe en France. Ils sont extrêmement marqués par ce qui s'est passé à Lyon. Ils en parlent beaucoup. Alors, il y a la presse de gauche, la presse un peu mainstream, qui en parle à peu près de la même façon qu'en parle BFM TV ou France Info. J'ai même lu dans le quotidien économique italien, il Sole 24, qui est vraiment a priori...
C'est l'équivalent
voilà.
des Échos, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, et qui décrivait Quentin comme un fondamentaliste chrétien. J'avais encore jamais vu ça.
Mais en fait, voilà. c'est amusant. C'est aberrant. On a l'impression que chaque fois qu'il y a une figure de la droite qui émerge, et qui émerge d'une façon tragique, il faut la réduire à quelque chose. Et la fondamentaliste chrétien, on a l'impression que le type pensait à Charlie Kirk. Et donc, qu'il fallait mettre immédiatement à Quentin l'étiquette la plus infamante possible, fondamentaliste chrétien. C'était un catholique voilà, qui allait à la messe dans sa ville et qui venait en aide aux clochards. De son quartier. Olivier Frère Jacques, Raphaël Arnaud est un antifa d'une espèce un peu particulière, puisque c'est un antifa qui a décidé de pactiser avec le régime. Et alors, il pactise avec le régime d'une manière habile, c'est-à-dire, d'une part, il se fait élire, donc autrement dit, il participe malgré tout au système de reproduction qu'il est censé abhorrer en tant qu'antifasciste, mais tout en créant une milice de brutes d'extrême-gauche qui lui permet de donner des gages en fait, à sa famille antifasciste. Et donc, il navigue comme ça entre deux écueils.
Alors, pour bien comprendre où se situe Raphaël Arnaud, il faut avoir une vision. En fait, expliquer l'antifascisme. L'antifascisme se retrouve dans trois groupes différents. Il y a l'antifascisme institutionnel, qui va du Parti Socialiste à l'extrême-gauche électorale la plus radicale, on va dire l'Utourière, nouveau parti anticapitaliste, NPA. Il y a les antifascistes autonomes et les antifascistes unitaires. Autonomes, c'est l'AFAPB, l'Action Antifasciste Paris-Banlieue, par exemple, qui s'inspire de l'antifascisme autonome italien et plus récemment, plus de l'antifascisme allemand, en fait, avec les Black Blocs, avec une action autonome, c'est-à-dire que ce sont des gens, on ne connaît pas leur nom, ils cachent systématiquement leur visage, ils envisagent l'action violente en permanence, mais non, pas de... Il n'y a pas de projection électorale dans la démarche.
Non, mais en revanche, il y a une projection crapuleuse, si j'ose dire, puisqu'ils sont, comme par hasard, étant hors système, en train de prospérer.
Et sous les radars.
Ils sont sous les radars et dans le trafic de drogue, généralement.
Le cas de Raphaël Arnaud, c'est quelque chose qui est plus récent dans l'antifascisme, c'est l'antifascisme unitaire. Donc, ils adoptent une partie des codes de l'antifascisme autonome, mais ils s'approchent de l'antifascisme institutionnel via un parti politique, en l'occurrence la France Insoumise, qui les a accueillis à bras ouverts, puisque historiquement, il y a quand même eu des conflits entre l'antifascisme et la France Insoumise, qui n'étaient pas toujours raccord, et à plus forte raison quand les autonomes se sont opposés à la France Insoumise. Mais dans le cas de Raphaël Arnaud, il y a une idée, en fait, d'institutionnaliser l'antifascisme et de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire on continue d'avoir une organisation violente, mais en même temps on prend l'argent du contribuable en étant élu à l'Assemblée nationale et en embauchant ses copains. D'ailleurs, Pierre Sautarel de F de Souche posait une question qui serait intéressante.
Très juste. Ouais,
voir, il faudrait vérifier, est-ce que l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud est un emploi fictif ou non? Est-ce qu'il y avait vraiment du travail ou est-ce qu'il était payé pour organiser
des agresseurs potentiels avant que la police ne fasse, puisque c'est en cours d'identification selon le procureur, parmi les agresseurs potentiels et parmi les noms qui circulent, il y a effectivement l'un des assistants parlementaires de Raphaël Arnaud.
Le journal de Lyon, Le Progrès, l'a confirmé quelques minutes avant l'émission, semble.
Donc on peut citer son nom, Fréjo.
Oui, c'est ça.
Voilà. Jacques-Élie Favreau. Et Favreau est à l'Assemblée nationale, assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, d'ailleurs, au point que, comment s'appelle-t-elle, Madame Braun-Pivet a expliqué que, à la suite du décès de Quentin à Lyon et au regard de témoignages mentionnant M. Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire du député Raphaël Arnaud, j'ai décidé, à titre conservatoire et sans préjudice des suites de l'enquête judiciaire, de suspendre ses droits d'accès à l'Assemblée nationale. Donc, c'est absolument fascinant parce que, pour que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent bien, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, décide qu'un assistant parlementaire accusé de meurtre, bientôt accusé de meurtre, en tout cas vraisemblablement partie prenante de la jeune garde qui vraisemblablement a contribué au meurtre de Quentin, eh bien on explique que non pas qu'on le vire, non pas qu'on le suspend, non pas qu'on lui coupe son salaire, pas du du tout. Non, on lui dit juste, tu peux continuer à être assistant parlementaire, mais ne mets plus les pieds à l'Assemblée nationale. Voilà, ça, c'est vraiment la République dans toute sa rigueur, qui est capable de dire à un député RN qu'on va lui supprimer son traitement, ses émoluments, je ne sais pas ce que reçoit un député, sinon que évidemment, il est bien payé. Pour avoir commis quelque chose qui s'apparenterait à une insulte raciste, si on a vraiment envie de l'interpréter d'une manière spéciale, le type est privé de thunes. Mais en revanche, Favreau, on se contente de lui dire ne mets plus les pieds à l'Assemblée nationale. Et ça tombe bien, ça se trouve, il n'y mettait jamais les pieds, en fait.
Je ne sais pas si vous avez parlé tout à l'heure, parce que je suis arrivée un peu plus tard, de ce qui s'est passé ce matin à Toulon. Avec Laure Lavalette.
Non, pas encore.
C'est une info. Une info du JDD. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, cette stratégie de l'attroupement à quand même au moins 10-20 personnes. C'est ce qui lui est arrivé ce matin. Elle était au hall de Toulon. Et elle a été entourée d'une vingtaine de personnes, elle et sa fille et un de ses amis, de gens qui ils ne l'ont pas touché exprès. Il n'y a eu aucun contact physique, mais ils étaient tout près. Et il montait une pression en disant « Il est où Quentin ? Il est où Quentin ?» etc. Donc c'était des gens d'extrême gauche qui ont voulu lui faire peur. C'est quand même... Elle est en campagne électorale. Enfin, c'est invraisemblable. C'est-à-dire que plus personne n'est en sécurité, même en campagne électorale, même en plein jour, même dans les halles de Toulon, qui est quand même quelque chose, je pense, agréable et sympathique. Et alors elle a dit, parce que elle c'est une militante, Laure Lavalette, donc elle sait de quoi elle parle. Elle a dit j'ai pas eu peur, je n'aurais pas peur. En revanche, elle était très ennuyée d'avoir été avec sa fille.
Mais
Alors, excusez-moi, 4 suspects ont été interpellés d'ailleurs. C'est une information du Figaro. 4 suspects ont été interpellés et Jacques-Élie Favreau, nous dit-on, collaborateur parlementaire du député insoumis Raphaël Arnaud, était bien devant Sciences Po Lyon le soir du meurtre de Quentin. Les 6 principaux suspects identifiés étaient tous d'anciens membres du mouvement d'ultra-gauche de la Jeune Garde. J'aime beaucoup le mot « ancien ». Et voilà, donc 4 suspects ont été interpellés ce soir. Maître Sassi, enfin. La justice traite-t-elle d'une manière générale les affaires politiques, c'est-à-dire quand des militants politiques sont accusés d'avoir tenu des propos haineux, quand des militants politiques sont accusés d'avoir été violents, est-ce que la justice considère qu'il s'agit d'un mode d'expression politique ou est-ce que la justice considère qu'il s'agit au contraire d'actions relevant de la décence ordinaire?
Le problème quand on parle de la justice, c'est qu'il faut parler de deux réalités. La première réalité, c'est le ministère public, les parquetiers ou les procureurs de la République. Les procureurs de la République sont chargés de mettre en place, de piloter la politique pénale décidée par le gouvernement. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et c'est eux qui sont responsables de l'opportunité des poursuites. Donc, vous l'aurez compris, en effet, dans ce pays, un discours anti-immigration, par exemple, fait l'objet d'un traitement prioritaire par la justice via les procureurs de la République de tous les tribunaux de France. Au contraire, jusque-là, en effet, les actions des militants d'ultra-gauche faisaient l'objet d'un traitement plus léger, voire négligent. En revanche, l'autre réalité judiciaire, ce sont les magistrats du siège. Alors, quel sort les magistrats du siège réservent aux affaires politiques? Eh bien là, j'ai envie de dire que c'est à la discrétion et à la conscience des magistrats du siège qui sont saisis. On a des magistrats du siège qui, de temps en temps, sont courageux, mais la plupart du temps, cèdent, si vous voulez, à l'esprit du temps. Et si l'esprit du temps, et qui est en fait surtout l'esprit médiatique, met une pression pour en fait des condamnations d'actions ou de propos qui sont jugés inacceptables dans notre société, ce sera plus difficile pour les magistrats de rendre des décisions qui, il faut quand même le dire, sont plus conformes au droit, en ce sens que, dans certains dossiers, il n'est pas évident que les personnes soient condamnées en l'état du droit existant, ou au contraire, par rapport à l'interprétation qu'on peut en faire. Donc, comment se comporte la justice en matière politique? Eh bien, la première réponse, c'est qu'en réalité, l'outil judiciaire est piloté par le gouvernement actuel via ses procureurs, Et deuxièmement, les magistrats du siège qui sont formés à l'ENM, il faut quand même le reconnaître, eh bien, sont davantage lecteurs du Monde, au mieux du Figaro, que de Valeurs Actuelles.
Voilà. Alors, nous avons quelques questions des auditeurs
Et
de Radio Courtoisie.
je salue les magistrats qui écoutent tout de même Radio Courtoisie et je les remercie pour les décisions courageuses qu'ils peuvent rendre où qu'ils se trouvent.
Voilà, et si jamais ils ont envie de prendre contact avec nous, nous leur garantissons l'anonymat. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, ils puissent nous raconter la manière dont ça fonctionne. Alors, l'un des auditeurs nous dit « Nous savons bien que ces violentes sections d'assaut gauchistes haineux sont les alliés objectifs du pouvoir en place depuis 50 ans. Nous ne cessons de le constater et de façon encore plus flagrante depuis 9 ans de macronerie. » C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Olivier Frère-Jacques, sur le fait que ce sont les idiots utiles du régime. Et quelqu'un d'autre nous dit, très intéressant, merci, je crois qu'il faut arrêter d'appeler ces milices Antifa, ça leur faire de la publicité, qualifions-les plutôt de milices ultra-violentes de gauche, ce qui serait beaucoup plus réaliste et stigmatisant. Ces nervis sont des couards et des pleutres. Alors, il l'assume, c'est ça qui est génial en fait. En fait, comme le disait tout à l'heure Olivier Minot, ils n'ont aucun honneur, c'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu du vrai militant de gauche, c'est de faire triompher la cause, et la cause, évidemment, surpasse toute morale personnelle. Un auditeur nous dit qu'il ne comprend pas, et je pense que je me suis mal expliqué, je ne comprends pas bien ce que dit l'avocat invité, il y a un meurtre, on ne peut pas libérer des suspects pour vice de forme. En fait, voilà, j'ai demandé à Maître Sassi de parler d'une autre affaire, en fait, qui sont, par exemple, ces militants albigeois qui avaient été arrêtés, ou une autre affaire qui a eu lieu, dont parlait Édouard Bina. Donc, il n'y a pas eu un meurtre et on a libéré les suspects pour vice de forme. Là, ce sont d'autres affaires où il n'y avait que, et j'espère que vous entendez les guillemets que je mets à ce que, il n'y avait que des traumatismes crâniens, que des visages ravagés, que des gens traumatisés et que des jours, voire des semaines passées à l'hôpital. Mais il n'y avait pas eu de meurtre et néanmoins, évidemment, il y avait ces fameux vices de forme, alors qui ne sont pas systématiques, puisque voilà, on peut très bien admettre le vice de forme ou en première instance, on peut juger que justement la manière dont s'est déroulée l'enquête et dont se déroulaient les faits justifie qu'on sorte du cadre étroit imposé par la loi. Et les
règles. Oui, enfin, moi, non, la procédure est très importante. Je sais que beaucoup d'auditeurs, et on l'entend souvent venant de personnes qui sont idéologisées et à gauche, mais bon, je peux vous assurer que ce n'est pas franchement mon cas, mais la procédure est fondamentale dans la mesure où elle est quand même garante de certains droits et de certaines libertés. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que, et c'est pour ça, si vous voulez, que dans le cas, en tout cas, de l'enquête concernant les auteurs du meurtre de Quentin, les enquêteurs ne veulent pas se précipiter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser des dossiers et faire des interpellations uniquement sur la base que de caméras de vidéosurveillance ou que d'exploitation de données de téléphone, d'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce que font souvent les enquêteurs dans les dossiers complexes, c'est qu'ils font plusieurs actes d'enquête, actes d'enquête A, B, C, D, E, F, G, et comme ça, à supposer que B et C, eh bien, se retrouvent fragilisés pour des erreurs de procédure, il reste quand même A, D, E, F, G. Voilà, c'est simplement ça ce que je veux dire pour le clarifier auprès des auditeurs. Ce que Richard mentionnait au sujet, en effet, d'une affaire qui a eu lieu dans l'ouest de la France sur une attaque, hein, bien rodée, puisque en fait c'était organisé, une milice de gauche arrivait avec des parapluies entièrement cagoulés, vêtus de noir, pour passer à tabac un militant qui tractait devant l'université. Le dossier reposait uniquement sur un moyen d'enquête que j'appellerais le moyen d'enquête A, qui était en fait l'utilisation de drones, mais les drones avaient été utilisés en dehors du périmètre. Bref, et comme il n'y avait que les drones en fait qui étaient le support de l'enquête, ben, à partir du moment où le moyen d'enquête A est compromis, et en fait le dossier tombe. Voilà, c'est simplement ça qui a été expliqué tout à l'heure à l'antenne. Je précise ça pour l'auditeur.
Alors, je voudrais juste préciser aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'on a dit qu'il y avait quatre personnes qui avaient été interpellées et Favreau fait justement partie de ces quatre personnes.
Moi, j'avais une question un peu plus, disons, politique, mais qui rejoint ce que vous disiez sur les magistrats. Est-ce que, on a vu cet après-midi à l'Assemblée, Sébastien Lecornu être assez virulent vis-à-vis de Mathilde Panot? Est-ce qu'à votre avis, c'est un peu des esbroufs, ou alors est-ce qu'ils ne sont pas en train de lâcher ceux qui étaient quand même leurs meilleurs alliés, dans la mesure où, après une fois que les gilets jaunes, toutes les manifestations que vous voulez, une fois qu'ils avaient tout bien bordelisé, si vous me pardonnez l'expression, le parti au pouvoir pouvait se poser comme le parti de l'ordre et tout rentrer dans l'ordre, etc. Est-ce que là, ils ne sont pas en train de les lâcher? Parce que là, en fait, le cornu a été assez, cet après-midi à l'Assemblée, a été assez, assez virulent.
Oui, il a dit à Mathilde Panot...
C'était abject ce qu'elle disait, voilà. C'était ignoble.
Bon. Ça reste des alliés, puisqu'il ne faut pas oublier que Gabriel Attal fait le malin là, depuis 24 heures en disant « Je suis le seul qui a affronté Raphaël Arnaud » parce qu'il s'était rendu à Avignon entouré de gardes du corps face à Raphaël Arnaud qui était tout seul et ils sont invectivés dans une espèce d'échange tout à fait ridicule d'ailleurs. Et il dit « En gros, moi j'y suis allé, je suis courageux. Oui. » Et quand il y a eu le deuxième tour, il a appelé à voter Raphaël Arnaud. Mais moi, je pense qu'ils les lâcheront le temps qu'il faudra. Mais l'ennemi restera le Rassemblement National pour une raison bien simple. C'est comme le disait tout à l'heure Maître Sassis, c'est que l'ère du temps demeure antifasciste parce que culturellement, la France est imprégnée de ça. Jacques Chirac a beaucoup pesé là-dedans. Oui. Jacques Chirac a quand même refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en 2022. Et il reprend, en fait, indirectement, il reprend cet adage, on ne débat pas du fascisme, on le détruit. C'était l'anarchiste espagnol Buenaventura Durruti qui le disait. Et dès lors que la droite a admis ce fameux cordon sanitaire qui est d'une débilité profonde, eh bien, les antifascistes ont gagné. Et dans la rhétorique, ils ont gagné. Et on peut organiser tous les artifices qu'on veut après en disant ce sont des terroristes, ce qui est une connerie sans nom. Cet après-midi, on a entendu à l'Assemblée nationale des gens qui disent il faut les qualifier de terroristes. Ce ne sont pas des terroristes. C'est une organisation criminelle violente. Ce n'est pas une organisation terroriste.
Même s'ils terrorisent les gens.
Oui, mais ce n'est pas une organisation terroriste. Et je pense que les mots ont un sens et que les députés qui vont sur ce terrain-là, en essayant de faire de la surenchère, parce qu'ils ne font pas le travail qu'il faudrait par ailleurs pour faire condamner ces gens-là, eh ben se trompent lourdement. Et pourtant, il y a plein de moyens, même avec l'arsenal juridique en place, Maître Sassi, je pense, pourra corroborer. Moi, je pense que quand il y a une manifestation qui est à risque à Lyon, par exemple, on connaît les gens qui vont manifester. Eh ben, il y a un moyen assez simple à faire, c'est ce qu'on fait avec dans le cadre des supporters de football, ce qu'on appelle parfois les hooligans, c'est que le soir où il y a la conférence de Rima Hassan, vous convoquez tous les types à risque, vous les convoquez au commissariat de police. C'est ce qu'on fait avec les gens qui sont interdits de stade. Eh ben, on fait l'équivalent d'interdit de stade pour ces gens-là. Alors, on peut dire que ça prend du temps, mais on le fait pour les supporters de foot. Pourquoi on ne le ferait pas
On l'a fait pour les gilets jaunes en plus. Voilà. Donc, je voudrais, puisque vous avez parlé d'Avignon, je voudrais rappeler que, évidemment, Gabriel Attal est un mec super courageux, mais que le jour du second tour des élections législatives anticipées, le cabinet du préfet du Vaucluse avait expliqué à Catherine Jaouen, qui était la candidate RN face à Raphaël Arnaud aux législatives de 2024, de ne pas sortir de chez elle à partir de 18h. C'est-à-dire, le préfet avait dit à une candidate que c'était dangereux pour elle de traîner dans la rue à partir de 18h parce que Raphaël Arnaud y traînait, justement. Raphaël Arnaud s'y pavanait avec la jeune garde et ils eux aussi étaient mobilisés pour, on ne va pas dire terroriser la population, mais en tout cas intimider la population. Et intimider les candidats RN. Et le préfet, en guise de défense de l'ordre public, avait juste comme moyen de dire à la candidate RN de rester chez elle. Et donc, dans le Vaucluse, 4 des 5 sièges de députés sont effectivement tombés dans l'escarcelle du RN, sauf Avignon, qui a permis, évidemment, d'élire le camarade Arnaud avec des méthodes parfaitement démocratiques. Mais Maître Sassi, indépendamment de Raphaël Arnaud et de ce genre de choses, je voudrais revenir sur ce que vous appeliez l'esprit du temps avec une information qui m'avait frappé ce matin. On apprenait que la Banque de France ouvre une enquête sur l'un de ses cadres que la CGT accuse d'être d'extrême droite. Et effectivement, ce galeux, ce pelé, ce tondu a osé liker, comme on dit, des posts de Mathieu Vallée et de Sarah Knafo. Donc,
sur LinkedIn.
Voilà, quand ce n'est pas la justice institutionnelle qui sévit, c'est la Banque de France qui n'a rien de plus pressé à faire au milieu de la faillite financière totale de la France à laquelle elle a peu ou prou participé en validant toutes les politiques menées et en les accompagnant. C'est la Banque de France qui ouvre une enquête parce que quelqu'un sur LinkedIn a osé mettre un pouce devant un statut de Sarah Knafo.
Mais alors, si vous voulez, c'est d'une banalité infligeante, d'accord? Puisque ça, vous voyez, c'est une anecdote qui est médiatisée. Mais en effet, que ce soit dans la fonction publique, qu'elle soit la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale, que ce soit également dans des grandes sociétés privées, ce type, si vous voulez, de mise à l'écart, hein, qu'on appelle licenciement, mise à pied, révocation en fonction du degré de gravité de ce qui peut être reproché à l'agent ou au salarié ou aux membres du personnel dirigeant de telle ou telle entité, publique ou privée, c'est non mais je peux dire que c'est quotidien, d'accord? C'est vraiment banal et c'est pour ça que un travail comme fait Radio Courtoisie, comme fait l'Observatoire des violences politiques, comme fait Olivier Frère-Jacques avec l'ouvrage qu'ils ont publié. Comme font aujourd'hui en fait tous les nouveaux médias ou les nouvelles personnes qui sont engagées à titre médiatique. Puisqu'aujourd'hui, X, avec des figures de personnes qui ne sont pas des journalistes professionnels, participent à une véritable libération de la parole. En fait, il faut comprendre qu'il est fondamental de façonner hein, l'opinion publique de telle, de la même manière ou de pouvoir dire la vérité là où en fait le système, hein, communiste, rouge, gauchiste, wokiste, on l'appelle comme on veut, à ces médias institués qui fabriquent l'opinion tous les jours. Et le problème, c'est que la fabrique de l'opinion a des répercussions concrètes dans la vie professionnelle, hein, sur le choix des salariés, le choix du personnel dirigeant, a des choix concrets dans les membres de la fonction publique. Et en effet, on décide en fonction du climat, hein, du climat médiatique. Ou du climat intellectuel admis ou non admis hein, et déterminé par les médias hein, de manière générale, qui va pouvoir en fait travailler ou avoir des responsabilités dans ce pays. Je veux quand même revenir sur ce que Olivier Frère-Jacques a dit tout à l'heure. Je suis parfaitement d'accord avec lui sur le fait que je ne pense pas qu'il soit opportun de qualifier les milices gauchistes de mouvements terroristes, d'accord? Ce serait leur donner trop d'honneur, hein. Ce sont des mouvements de délinquants, c'est de la petite racaille, d'accord? Je le dis parce que si vous voulez, contrairement à des mouvements mafieux, hein, qui sévissent dans le pays et qui contrôlent le trafic de stupéfiants, qui sont des gens extrêmement dangereux, hein, d'accord? De par l'armement dont ils disposent, l'argent dont ils disposent. Les réseaux commerciaux dont ils disposent pour blanchir leur argent, hein, ce sont des mouvements extrêmement dangereux. Les milices rouges n'ont de force que par le soutien institutionnel qui est le leur. Soutien institutionnel médiatique, soutien institutionnel politique, hein. Mais sinon, lorsqu'on parle des milices rouges, on parle la plupart du temps de jeunes, hein, qui ont entre 16 et 35 ans et qui font au plus 65 kilos, d'accord? Et en fait, leur seule force de frappe, c'est le nombre, hein, et c'est le soutien politique et financier dont ils bénéficient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, Olivier Frère-Jacques a complètement raison de dire que nous avons l'arsenal législatif pour les mettre à l'écart, pour les empêcher, en fait, de faire ce qu'ils font, mais que par un choix délibéré, on ne le fait pas. Et je terminerai par là mon intervention, par, je pense, en fait, l'anecdote de ma vie professionnelle la plus grave que j'ai vue, c'est ce qui s'est passé à Angers, à l'époque des émeutes Naël, hein. Et on voit quand même, voyez-vous, la différence de réaction. Donc Naël, qui était un délinquant, hein, mort à la suite d'une intervention policière, on a l'intégralité des cités de France qui s'embrasent, hein, ce qui en dit long, si vous voulez, sur la qualité de l'intégration aujourd'hui de toute une génération. Et dans ce cadre-là, en fait, les gauchistes avaient prévu de détruire le local de mouvements angevins enracinés. Hein. Ils s'étaient regroupés à 50. Ils étaient 10 angevins à défendre leur local avec des bâtons en bois. Ils les repoussent le vendredi soir. Ce que font les gauchistes, c'est un faux tract qui s'était déjà embrasé. Avec l'adresse de ce local angevin, le nom du groupe qui tenait ce local angevin, et ils mettent comme inscription Nettoyons les banlieues de la racaille, hein, en plein contexte Naël, signé ce groupe angevin qui tient ce local à cette adresse. D'accord? Donc, en termes de mise en danger, de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, avec des conséquences criminelles, c'est-à-dire la mort des militants angevins qui tenaient ce local, c'était l'effet qu'ils recherchaient ce soir-là, le samedi soir. Vous avez 80 à 100 jeunes de quartier qui arrivent avec des voitures de sport, des armes blanches, des matraques télescopiques, des gazeuses, et qui arrivent pour en fait leur faire la peau. Jamais eu d'enquête.
Mathieu Sassi, il y a un léger défaut dans. Vous avez dit, il n'y a jamais eu d'enquête et on n'a pas entendu jamais, mais.
Voilà, il n'y a jamais eu d'enquête, s'il vous plaît, sur en fait ce piège et cette manipulation par l'extrême gauche angevine qui, en utilisant les banlieues, fait orchestrer un guet-apens qui se serait avéré meurtrier sans la défense des militants toute la nuit du samedi soir avec l'intervention des forces de l'ordre. Voilà. Donc, ce que je veux simplement dire par là, c'est vraiment pour souligner ce que Olivier Frère-Jacques a dit. Les milices rouges ne sont pas des terroristes. Ce sont des voyous qui sont soutenus par nos institutions, médias et gouvernements. Et ces voyous, nous avons largement les moyens juridiques de les contenir. Il ne faut certainement pas leur faire honneur de les qualifier de terroristes, parce que si nous le faisons, en fait, ils utiliseront l'arsenal législatif voté contre les Rouges, et ils utiliseront ce nouvel arsenal contre le camp national. Et j'en termine par là, d'accord, pour le dire devant les auditeurs. Moi, lorsque j'interviens dans des dossiers qui sont connotés ultra-droite, vous savez quels sont les groupes qui sont nommés ? Les groupes de lutte antiterroriste.
Merci Mathieu Sassi. Marie d'Armagnac, on parle de la manière dont, hélas, l'extrême-gauche a gagné la bataille des esprits, dont l'ultra-gauche est en train, avec la complicité active ou passive des autorités, de gagner la bataille des rues. Comment, dans l'Italie de Giorgia Meloni, on traite le problème antifasciste ?
Alors, avec là, on voit effectivement la différence de volonté politique, ce que vous expliquiez. Je pense qu'ils sont, ils sont surveillés. Ils sont très surveillés. Il y a des enquêtes qui sont menées. Après, le problème, c'est la magistrature, en fait. Hein, quand même, c'est un vrai gros problème en Italie, et c'est à peu près le même qu'en France. Surtout les questions d'ordre public, mais aussi d'immigration, de délinquance liée à l'immigration, etc. Vous avez toujours, il y a des lois qui sont prises, des décrets qui ont été pris depuis 3 ans et demi que Giorgia Meloni est au pouvoir. Ils sont systématiquement battus en brèche lors des décisions de justice. Ils sont, voilà. Donc ça, c'est assez, assez difficile. Alors, dans un mois, il y aura un référendum en Italie pour une réforme de la justice et donc de la magistrature. Donc ça va être très très intéressant parce que ça rétablirait au moins dans la sélection et la promotion des différents magistrats une certaine indépendance. C'est-à-dire que ce serait fait en partie par tirage au sort, ce qui est intéressant parce que c'est un peu technique, mais alors qu'aujourd'hui c'est un syndicat majoritaire de gauche, il y en a deux, qui en fait c'est de la cooptation. Donc si vous voulez, là, après la boucle est bouclée, en fait on peut plus en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a eu des décrets-lois pris contre les rave parties. Là, il y a un tour de vis un peu sécuritaire. Un autre décret-loi qui est lié à un autre décret sur l'immigration. Où, effectivement, alors ça, c'est ce que vous disiez. Non, c'est Olivier qui disait ça. On a le droit, quand il y a des manifestations prévues, etc., les Black Blocs, les Antifa, qui sont évidemment connus de tout le monde, ça, ils ont archi-repéré, maintenant, ils ont le droit de les arrêter pendant 12 heures.
En revanche, Préventivement.
En revanche, il faudra qu'ils passent par un juge. Ça, c'est ce que le président de la République, qui est plutôt un démocrate chrétien de gauche en Italie, a obtenu pour limiter la portée du texte initial qui voulait 24 heures de 24 heures à l'ombre préventivement. Donc il y a ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est une question de volonté politique, mais enfin, pour beaucoup de ces décisions, le gouvernement se heurte à une magistrature très marquée à gauche, ça c'est sûr.
Dans votre opuscule, l'extrême gauche, réalité, violence et réseau, Olivier Frère-Jacques, donc, que vous avez publié au titre de Liberté politique avec l'aide de l'Observatoire des violences politiques, quelle est la vraie leçon démocratique que nous administre l'extrême gauche ?
Je ne sais pas si c'est une leçon démocratique, mais en tout cas, c'est une leçon de travail politique. Et là-dessus, on a plutôt, y a un modèle à suivre, c'est qu'il y a des gens qui ne manquent pas d'abnégation, c'est-à-dire qu'ils ne lâchent jamais. Là où la droite a toujours perdu du terrain, où la droite ne s'est jamais assumée, eh ben, eux font preuve d'une résistance exceptionnelle. Et c'est illustré aujourd'hui par ce qui se passe avec la France insoumise. Manuel Bompard, Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon soutiennent l'insoutenable. Ce qui est critiquable, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que eux soutiennent à fond leurs assistants parlementaires, leurs députés, leurs amis antifascistes. Et de l'autre côté, quand il y a un député à l'Assemblée nationale qui a mis à pied son assistant parlementaire parce qu'il avait eu une réaction un peu vive sur les réseaux sociaux, qui était probablement une réaction un peu démesurée, parce qu'il appelait un peu, je pense plus ou moins, à la violence contre les assassins de Quentin. Mais on pourrait lui excuser. On peut lui dire, tu enlèves ton tweet et on passe à autre chose. C'est une réaction saine quand même de dire qu'on n'en veut plus de cette racaille antifasciste. Donc, je pense que la leçon à retenir, c'est que chez eux, il y a quand même une résistance qu'on ferait mieux d'avoir chez nous. Il y a une capacité de mobilisation, c'est-à-dire que la gauche se désunit tout le temps, mais quand il faut faire bloc face à l'ennemi envisagé, et qu'eux, l'ennemi envisagé, c'est, et ça restera toujours le RN. Le RN pourra dire ce qu'il veut, changer de drapeau, changer de nom 8 fois, ça ne changera rien. Le RN ne sera jamais l'allié de la gauche, et il faut en tirer les leçons et adopter nos propres canaux de communication. C'est ce que fait Radio Courtoisie, ce que fait TV Liberté, ce que font les médias alternatifs. Il faut faire un vrai communautarisme politique et se tourner vers nos médias dans leur diversité, parce qu'il y a aussi des médias plus institutionnels, comme vous citiez le JDD tout à l'heure, et dans certaines mesures d'autres journaux, il y a Valeurs Actuelles évidemment, qui sont une voie alternative, bien, ou alternative, ou en tout cas à minima conservatrice. Et je pense que il faut tirer les leçons de l'extrême gauche qui elle utilise ses propres canaux et donne sa narration.
Et ça, alors honnêtement, j'ai vu ça en étudiant la droite italienne, que ce soit la Ligue ou le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, l'expérience militante est une expérience extrêmement forte et totale, en fait. Hein. Et Giorgia Meloni n'est pas arrivée là où elle est comme ça. C'est pas un concours de circonstances. Elle a milité et elle n'a fait que ça depuis l'âge de 15 ans. Et effectivement, en plus, ils ne lâchent jamais leurs militants. C'est-à-dire qu'on, c'est pas un tweet malheureux qui, etc. J'ai vu même Giorgia Meloni, depuis qu'elle est au pouvoir, il y a eu des maladresses de certains de ses députés. Enfin, il y a évidemment, ce sont des hommes, c'est des vrais gens, quoi. Elle n'a jamais, dans ces cas-là, se tait, dit rien. Elle ne condamne pas.
Voilà, Giorgia Meloni ne condamne pas.
Non, elle condamne pas.
L'un des auditeurs de Radio Courtoisie nous dit, mais pourquoi au fait ne pas publier les listes de noms de ces dangereux nervis de gauche, employons les mêmes méthodes? Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Sassi?
Oui, mais j'aimerais bien, mais le problème, si vous voulez, ça supposerait qu'on enquête sur eux, parce qu'en fait...
Je dois dire que dans les boucles de gens autorisés, on a eu très rapidement le nom, numéro de téléphone et les adresses.
Cet après-midi, les Corsaires, il y a un mouvement qui s'est créé sur les réseaux sociaux contre les Sleeping Giants, qui faisaient la chasse aux gens qui étaient censés être de droite, d'extrême droite, etc. Les Corsaires, qui eux luttaient contre les Sleeping Giants, ont commencé à sortir les noms des personnes et à interpeller, comme le fait l'extrême gauche, à interpeller les employeurs. Ouais. Donc, un tel travaille dans telle entreprise, est-ce que c'est conforme à vos valeurs? Je ne sais pas si c'est légal de faire ça ou quoi que ce soit, mais c'est exactement la même chose qu'ils font en face. Et voilà, à leur manière, les Corsaires ont tiré les leçons, ont tiré la leçon de l'antifascisme, et en tout cas ont décidé de faire la même chose, qu'on accepte ou pas moralement que ce soit fait ou pas. Dès lors qu'ils le font de l'autre côté, il faut admettre que peut-être que ça se fera aussi de ce côté-là.
Oui, mais il faut quand même rappeler que ça a été un travail de militant, hein, le travail qui a été effectué à la faveur du départ de Quentin. En fait, il y a un certain nombre de militants, hein, de la mouvance nationale qui ont fait ce que font les rouges dans les dossiers judiciaires, d'accord. En fait, il faut savoir qu'un certain nombre de dossiers judiciaires conduisent à des interpellations parce que, en fait, les milices gauchistes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux identifient les militants et font volontairement des publications au cours des enquêtes policières de telle manière à orienter les enquêteurs vers telle ou telle personne, d'accord. Donc, en fait, Oui, on peut avoir l'impression que c'est assez neuf le fait qu'il soit que les militants gauchistes soient affichés. Mais si vous voulez, c'était pas déjà dans la tradition des militants nationalistes ou patriotes. Premièrement, deuxièmement, nous n'avons aucun média d'investigation ou en tout cas c'est très récent qui faisait un travail d'affichage de l'extrême gauche. Bon, là, j'en profite pour citer parce qu'Olivier Frère-Jacques est là. C'est vrai que l'Observatoire des violences politiques, en fait, est un média qui est assez récent. Olivier Frère-Jacques, peut-être que vous voudrez en parler, et qui, en fait, fait ce travail que les Rouges font depuis longtemps, qui est un travail, en fait, d'affichage social des réseaux, en fait, gauchistes. Mais c'est vrai que le camp national, en fait, ne s'y est jamais vraiment mis. Ceux qui se sont mis, ceux qui s'y sont Ceux qui s'y sont mis, en fait, ce sont des anciens militants ou des militants actuels. S'agissant, en fait, des grands partis nationaux, ils considèrent en fait, ils ont pas à le faire. Et d'ailleurs, pour le RN, on peut dire que oui, il a grandi électoralement, mais qu'il s'est largement coupé de sa base militante hein, en vue de se rendre plus acceptable. Et enfin, je dirais, pour répondre à cet auditeur, que si jamais, en fait, les médias ou les journalistes voulaient avoir accès en fait au réseau militant d'ultra-gauche, en réalité, il faudrait que ça se fasse à la faveur des affaires judiciaires, puisqu'en fait, dans les affaires judiciaires, en tout cas concernant les milieux nationalistes, vous avez la plupart du temps des fiches qui sont transmises dans les procédures, et dans ces fiches, vous avez le travail des services de renseignement qui ont cartographié les mouvements qu'ils ont infiltrés, et ils donnent l'intégralité des noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone des membres du mouvement pour faciliter le travail d'identification des enquêteurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il y ait peu d'enquêtes judiciaires sur les milieux rouges, le fait qu'il y ait peu de médias qui s'y intéressent ou qui se montent pour dénoncer leurs membres. Et en fait, ça laissait, si vous voulez, l'identification des membres des milices gauchistes à la discrétion des militants qui, en fait, la plupart du temps, doivent à la fois gérer vie professionnelle, persécution judiciaire et menaces physiques. Donc, vous comprenez que dans leur peu de temps qu'il reste, en fait, ils n'aient pas forcément eu le loisir de donner les noms des militants gauchistes comme eux ne se privent pas de le faire.
Je voudrais juste ajouter un élément. Tout le monde sait que le pédophile Cotinot était un militant d'extrême gauche. Tout le monde, sauf la presse, qui régulièrement parle de l'affaire Cotinot en évitant
Oui,
de mentionner
bien sûr.
le fait qu'il était un
Ben
militant d'extrême gauche. Voilà, et
oui. Oui.
photographié avec des gens qui sont à la chambre. Voilà.
France Insoumise
Mais d'ailleurs,
et LGBT.
je le dis, ce serait intéressant qu'il y ait par exemple une association de protection de l'enfance qui se constitue partie civile dans l'affaire Cotinot, hein, pour qu'on obtienne les noms de tous les LFI ou de tous les gauchistes qui sont dans ce réseau pédocriminel. Voilà, je lance l'idée. Hein, à la cantonade, puisque en fait c'est comme ça, si vous voulez que les associations gauchistes récupèrent les dossiers judiciaires, ils se constituent partie civile et comme ça ils obtiennent l'accès au dossier. Donc je lance l'idée hein, pour l'affaire Cotinot qu'il y ait une association de protection de l'enfance qui se constitue partie civile et qu'on regarde hein, le nombre de militants LFI ou gauchistes qui étaient membres hein, de ce réseau pédophile, hein, puisqu'on sait que la gauche a une affection particulière pour la pédophilie. Aussi importante qu'elle a une aversion pour l'Église.
Voilà. Et on sait aussi que la gauche est en fait constituée de tout un tas de fils à papa. C'est ce que nous rappelle un auditeur de Radio Courtoisie avec ces mots à lui. Ces groupes de raclures subventionnés sont dirigés par des fils à papa du style des auteurs du tristement célèbre Mur des cons, une fille de réalisateur, un fils de magistrat, etc. On parle des militants de la Jeune Garde qui viennent d'être interpellés. Merci beaucoup, Maître Sassi, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur ces affaires et le fonctionnement judiciaire. Merci, Olivier Frère-Jacques. Je rappelle votre brochure sur l'extrême gauche et ses méthodes, qui est un hors-série de Liberté politique. Merci beaucoup, Marie d'Armagnac, de nous
Merci
avoir
à vous.
Éclairé sur la manière dont, en Italie, des députés s'inquiètent de la manière dont les députés français Antifa viennent semer le souk chez eux et dont Giorgia Meloni, God willing, finira par venir à bout et des Antifa et de la justice qui les soutient. Et merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous sur Radio Courtoisie. Évidemment, n'hésitez pas à écouter la matinale demain matin. Nous reviendrons sur l'affaire Quentin et demain soir, c'est dans Arthur de Vatrigan qui vous accueillera dans Restons Courtois.
Ça suffit maintenant.